BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Thomas Asportas, Good Evening Business.
Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, eh bien, on a la France et l'Europe qui montrent les dents contre les grands noms internationaux de la tech et de l'e-commerce. La France, avec la loi anti-fast fashion, qui, vous savez, cible les géants chinois, Chine et Temu. Bah, ça y est, la loi vient d'être adoptée. Et l'Europe, avec des coups de pression dans tous les sens contre tous les grands noms internationaux de la tech, au nom du fameux DSA. Alors, est-ce que ça y est, est-ce que la naïveté est vraiment bel et bien terminée en France et en Europe? Eh bien, on va parler de tout ça, bien sûr. Dans Good Evening Business, ce sera après la grande interview d'Edwige Chevrillon à 18h10. Edwige, je reçois le directeur général, justement, de l'Alliance du Commerce, Yoann Petiot, pour parler de cette loi anti-fast fashion. Et puis, à 18h30, nos experts arrivent et on a encore beaucoup d'autres sujets à voir avec eux. Et on va parler notamment de logement. Après cette réunion, cet après-midi à Bercy avec les assureurs qui s'engagent à mettre 400 millions d'euros pour financer 10 000 nouveaux logements. Est-ce que c'est aux assureurs de mettre l'argent sur la table quand l'État n'a plus d'argent pour le faire? Ça promet de beaux débats. On est en direct jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence d'abord avec l'une des images du jour, ce vol d'essai très attendu de Starship. Starship, c'est la méga fusée de SpaceX. C'était aujourd'hui le troisième vol d'essai de ce titan de l'espace. Et même si la fusée a fini par se perdre, Starship a passé plusieurs minutes dans l'espace pour faire des tests. Et ça, c'est une victoire, c'est une très grande étape aujourd'hui pour SpaceX et pour la NASA. Jean-Baptiste Huette.
C'est le plus grand objet jamais envoyé en orbite en un seul lancement. 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, 1200 tonnes, le vaisseau Starship a brillamment rempli son contrat à l'occasion de ce troisième vol d'essai. Il a atteint une altitude d'environ 230 km, filant à plus de 26 000 km/h. Une fois en orbite, les équipes ont pu tester l'ouverture d'une des portes et surtout effectuer un transfert de carburant entre deux réservoirs. Une opération vitale en prévision des vols lunaires. Seul bémol, le retour sur Terre. Starship a été officiellement perdu, terminant sa course dans l'océan Indien. Starship, c'est l'une des pièces maîtresses des futures missions lunaires Artemis. C'est ce vaisseau qui doit convoyer des hommes entre une station spatiale et la Lune. La pression était maximale pour SpaceX, puisqu'après deux essais peu concluants, la NASA commençait à s'impatienter et à s'inquiéter pour le devenir des missions lunaires. Voilà l'agence spatiale américaine rassurée pour un temps, puisque de très nombreux tests, essais, réglages vont être encore nécessaires avant que ce mastodonte de l'espace soit déclaré bon pour le service.
Jean-Baptiste Huette, on poursuit avec ces informations de Bloomberg, selon lesquelles SoftBank voudrait investir dans Mistral AI. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Thomas.
Et ben d'après Bloomberg, le géant japonais de la tech voudrait visiblement participer au prochain tour de table de Mistral.
Et ce sera un bond considérable pour Mistral AI. Ce sera vraiment une reconnaissance au niveau mondial, bon, même si déjà ils sont assez connus. Rappelons quand même que le conglomérat japonais SoftBank, c'est 30% dans Alibaba, c'est 80% dans l'opérateur Télécom Sprint. C'est le détenteur de ARM qui font ces processeurs qui pourraient un jour concurrencer ceux de Nvidia. Et puis l'IA, c'est le nouveau dada de Masayoshi Son, le patron de SoftBank. Et donc, il veut investir, participer au prochain tour de table de Mistral. Rappelons que déjà au tour de table de Mistral, il vient d'y avoir Microsoft, il vient d'y avoir Salesforce, il vient d'y avoir Nvidia. Voilà ce qui valorise l'entreprise à près de 2 milliards de dollars. Et puis Mistral, vous savez, c'est un concurrent d'OpenAI, même si c'est pas exactement les mêmes. Enfin, faudrait rentrer dans les détails pour donner tout ça, mais voilà, ça permet aux entreprises de choisir, d'avoir du OpenAI, du Mistral, du Lighton ou du Gemini de Google, et donc Mistral va peu à peu commencer à vraiment jouer jeu égal avec OpenAI. Donc c'est un investissement à regarder de très très près. Et puis là vraiment, on franchit une étape pour Mistral.
Bon, si ça se confirme, et SoftBank par ailleurs connaît bien la France, hein, ils ont déjà investi dans beaucoup de licornes chez nous.
Ah oui.
Donc ils ne découvriraient pas l'Hexagone avec Mistral. Merci beaucoup Frédéric, j'en profite bien sûr pour vous rappeler le lancement de BFM IA, toute l'actu de l'IA à suivre H24 sur BFM Business, sur notre site internet et évidemment à la télé et à la radio. On poursuit avec la conclusion d'un dossier qui a donné des surfroides au patronat, l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie. Vous savez, qui a été longuement combattu par la CPME et le MEDEF. Eh bien, le Conseil d'État vient de rendre son avis et il va clairement limiter la casse pour les employeurs. Caroline Morisseau.
L'avis du Conseil d'État va clairement dans le sens des employeurs. D'abord sur la question de la rétroactivité qui alimentait toutes les craintes du patronat. Elle sera limitée à 3 ans maximum. Seuls les salariés ayant quitté leur entreprise moins de 3 ans avant la promulgation de la loi pourront réclamer des indemnités de congés payés sur leur période d'arrêt maladie. Quant aux salariés en poste, ce sera seulement 2 ans. On est donc très loin du pire des scénarios. Selon certains juristes, la mesure risquait d'être rétroactive sur 14 ans. Derrière, ces congés payés seront accordés dans la limite de 15 mois maximum. Dernier point enfin, ces indemnités seront calculées sur la base de 4 semaines par an et non 5, comme le prévoit le droit français, qui est plus avantageux que la législation européenne. La CPME, qui se bat depuis des mois pour obtenir gain de cause sur ce dossier, se dit soulagée. Cela va enfin permettre aux employeurs de savoir à quoi s'en tenir et de limiter la facture, nous dit l'un de ses responsables. Pour rappel, sans ces garde-fous, les organisations patronales redoutaient une facture de 2,5 milliards d'euros par an.
Caroline Morisseau, et on termine ce journal avec le clap de fin pour Edwy Plenel chez Mediapart. Le fondateur de Mediapart quitte la présidence du site d'information 16 ans après l'avoir créé. Et on peut dire qu'il a réussi son pari, un média d'investigation sans pub, 100% digital et rentable, très rentable même, et y compris d'ailleurs pour Edwy Plenel. Mathieu Pechberti.
Mieux qu'un grand patron, Edwy Plenel a préparé sa succession pendant plusieurs années. Il quitte Mediapart au sommet avec ses 220 000 abonnés, un niveau qui avait bondi grâce au confinement mais qui plafonne un peu depuis. Avec 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, le site d'info génère 17% de marge, presque autant que celle de Gala, une performance inégalée dans la presse qui souffre depuis plus de 10 ans. Ces 2 millions d'euros de bénéfices sont jalousement mis de côté en cas de coup dur, car il y a 5 ans, Edwy Plenel avait logé le capital de Mediapart dans une fondation à but non lucratif qui ne peut pas le céder. Il avait alors commencé à passer la main en vendant ses 17% pour près de 3 millions d'euros avant impôt, précise-t-il. Mediapart s'était endetté à hauteur de 11 millions d'euros pour racheter les parts de tous les fondateurs. Mais grâce à l'envolée de ses résultats après le Covid, tous les emprunts ont été remboursés l'an passé avant leur échéance.
Mathieu Pechberti, 18h05, on va sur les marchés. Les marchés, on retourne à Euronext, retrouver Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence, le CAC a encore grappillé du terrain ce soir.
Et oui, c'est encore un record pour la Bourse de Paris aujourd'hui. Le CAC a clôturé à 8161 points, en hausse de 0,29%. La séance a été rythmée par la publication d'indicateurs macro en début d'après-midi. Les ventes au détail reparties à la hausse en février aux États-Unis et les prix à la production surtout ressortis 2 fois plus fort qu'attendu. Alors ces chiffres pourraient venir contrarier le calendrier de baisse des taux de la Fed, que le marché a aussitôt pris en compte, bien sûr. Alors après être allé taper au-delà des 8200 points, ce matin, le CAC est redescendu après cette annonce. Il a quand même clôturé sur un record historique, tiré par le luxe et l'industrie notamment, et encore de nombreux records historiques ce jeudi sur pas mal de titres. C'est par exemple le cas de Hermès, mais aussi Airbus, Safran, Air Liquide, Luxottica ou Schneider Electric. Le CAC a surperformé aussi les autres places boursières européennes qui sont en légère baisse. L'Eurostox, le DAX ou le Spain IBEX 35 ont tous clôturé dans le rouge. Et puis, c'est rouge aussi sur les indices boursier américain en ce moment. La macro a surpris les marchés qui affichent un léger repli. Moins 0,45% pour le Nasdaq, 16 104 points. Le Dow Jones est à moins 0,38. Le S&P 500 moins 0,45% à 5 141 points. Il reste malgré tout ces indices tout proches de leur sommet historique.
Merci beaucoup Clémence. Donc nouveau record en séance et en clôture pour le CAC qui est donc en séance à dépasser la barre des 8200 points. 18h07, on marque une pause et dans un instant, Edwy Chevrillon reçoit Yoann Petiot, le directeur général de l'Alliance du Commerce, pour parler, entre autres, de cette fameuse loi anti-fast fashion qui vient d'être adoptée, c'était il y a quelques minutes, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. A tout de suite.
BFM Business présente Edwy Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, on va parler, c'est le thème du jour, de fast fashion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Faut-il l'interdire? Mais comment? Bonsoir Yoann Petiot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'Alliance du Commerce. Il y avait donc cette proposition de loi donc, qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale pour essayer de bloquer, de limiter l'impact de cette fast fashion. La question d'abord, c'est quoi la fast fashion? Qu'est-ce que ça représente? C'est qui?
Alors, il faut utiliser les bons termes.
Oui, oui, c'est pour ça.
On emploie fast fashion et la PPL, elle vise l'ultra fast fashion. Alors, à qui on a affaire? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on est face à des nouveaux acteurs, notamment asiatiques, qui agissent en ligne, à travers des sites en ligne.
Chez IM, hein, pour parler nommer, bien sûr.
Voilà, qui recueillent plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ils sont extrêmement puissants en quelques mois, en quelques années, avec des moyens financiers qui sont colossaux et qui pratiquent des stratégies marketing qui sont agressives et qui ne respectent ni les réglementations françaises en matière de protection du consommateur, de prix, d'information sur les prix ou même de sécurité des produits. Donc face à ces acteurs-là, oui, il faut agir et le texte de loi qui avait été déposé par le groupe Horizon à l'Assemblée nationale est une bonne chose, nous y étions favorables. Il y a aussi autre chose à faire. Il faut d'abord dire à ces groupes-là que toutes les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs.
Alors attendez, avant de passer sur les règles, parce que c'est pour ça que la définition est quand même importante, vous disiez ultra fast fashion, parce que eux, dans leurs critères, dans la loi de l'ONG, justement, qui dénonce, qui s'appelle Stop Fast Fashion, elle dit c'est pas plus, il faut taper sur les enseignes qui produisent plus de 5000 modèles par an, mais c'est très bas. Chez IN, c'est 7500 par jour. Donc vous voyez, enfin là on parle de choses complètement différentes. Enfin, les extrêmes sont très loin.
Entre 7500 par jour et 5000 par an, il y a un monde. Ouais. Et le sujet et l'enjeu aujourd'hui de cette PPL, notamment, est de se dire quel seuil on fixe pour vraiment cibler ces acteurs de l'ultra fast fashion contre lesquels on veut agir et ne pas mettre un seuil qui aujourd'hui impacterait des enseignes implantées en France qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous, il y a des seuils qui ont été portés, que ce soit par Raphaël Glucksmann par exemple, ou même par des députés Les Républicains. On pense que le seuil de 1000 références par jour est un seuil qui permettrait de cibler en effet les acteurs que l'on souhaite, qui sont les acteurs de l'ultra fast fashion.
Oui, mais d'abord, j'aurais dû presque commencer par le début, mais c'est pour ça que je vous demandais la définition. Yann Petiot, est-ce que pour vous, vous considérez qu'il faut réglementer cette fast fashion?
Cette ultra fast
fashion. Ultra fast fashion.
C'est pour ça que les termes sont importants. Oui, on considère qu'il est important de la réguler parce que ces acteurs qui sont arrivés en France avec des moyens qui sont colossaux, qui investissent des millions en marketing chaque année.
Oui, mais là, vous visez chez IM, on est d'accord, mais par exemple, Zara. Est-ce que pour vous, Zara...
Zara n'est pas un acteur de l'ultra
fast fashion. Ah bah oui, certains considèrent qu'elle l'est.
C'est là où le seuil est extrêmement important. Oui. Et nous, on dit, soyons vigilants au seuil que l'on veut mettre. On doit cibler l'ultra fast fashion qui ne respecte aujourd'hui ni nos règles en matière de protection du consommateur, de sécurité du produit, qui ont des pratiques néfastes pour l'environnement. Il faut agir contre ces acteurs-là. On sait qui ils sont aujourd'hui, mais Zara n'est pas un acteur de l'ultra fast fashion.
Certains disent que ça l'est.
C'est une position...
Non, mais c'est pour ça, pour l'Alliance du commerce, vous dites non, Zara n'en fait pas partie.
Zara n'est pas un acteur de l'ultra fast fashion.
Oui, ok. Mais à part chez IN, il y a quoi d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a Temu, il y a quoi d'autre?
Vous avez Temu, vous avez des sites tels que Boo aussi. Enfin, vous avez beaucoup de sites internet.
Il y en a d'autres qui vont naître chinois, en fait.
Il y en a d'autres qui vont naître demain en Inde. Enfin, on sait que ça va se multiplier. Ouais. Ce sont des modèles qui arrivent en France extrêmement puissants et qui perturbent en effet les enseignes qui sont déjà implantées sur le marché.
Mais H&M pour vous, alors si Zara ne l'est pas, parce que lorsqu'on voit les résultats d'Inditex, la maison mère qui a été publiée hier, plus de 5,5 milliards de bénéfices. On se dit que c'est complètement dingue. Enfin, le succès de Zara, c'est assez vertigineux. H&M, pour vous, c'est de l'ultra fast fashion ou c'est de la fast fashion? Est-ce qu'il faut sanctionner?
C'est peut-être de la fast fashion qui est arrivée à la même époque que Zara, qui ont créé le concept, j'ai envie de dire, de fast fashion. Aujourd'hui, on parle de l'ultra fast fashion. Zara et H&M, ils sont implantés dans notre pays maintenant depuis de très nombreuses années.
Ouais. C'est pas eux. Donc, faut pas y toucher.
C'est pas eux qui perturbent le marché depuis 2-3 ans avec des pratiques qui sont déloyales, qui sont même pas déloyales, qui sont illégales.
Oui, enfin, certaines ONG considèrent que c'est quand même aussi dangereux parce qu'ils ne respectent pas des critères environnementaux.
Lesquels?
De production.
Non, aujourd'hui, je ne suis pas leur défenseur, mais aujourd'hui, Zara produit dans du proche import, que ce soit au Maghreb ou ailleurs. Enfin, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de cible. Qu'est-ce qui perturbe le marché depuis 2-3 ans? Ce sont ces nouveaux acteurs géants sur Internet qui ne créent pas de valeur quand vous agissez sur Internet, que vous envoyez des millions de colis en France chaque année, qui ne payent pas de droits de douane européens, parce que le seuil des droits de douane européens, c'est 150 euros. C'est des pratiques déloyales, de la concurrence déloyale pour tout toutes les enseignes qui sont implantées sur le territoire français, qui créent de la richesse à travers leurs magasins et qui créent de l'emploi. Donc ne nous trompons pas de cible. Et d'ailleurs, l'esprit du texte initial de la proposition de loi, c'était bien de cibler ces acteurs de l'ultra fast fashion. Et donc aujourd'hui, nous, on était favorable à cette action face à l'ultra fast fashion.
Ouais. D'accord, ok. On voit. Est-ce que pour quand même. Cette ultra fast fashion, je reviens, est-ce qu'il faut vraiment une proposition de loi pour limiter trois acteurs ?
Alors, ce sont trois acteurs aujourd'hui, mais il y en aura d'autres demain, on le sait, parce que c'est un modèle qui peut...
Vous avez poussé l'Alliance du Commerce, vous avez poussé à cette loi ?
Non, nous, quel a été le message que l'on fait passer au gouvernement et au pouvoir public depuis maintenant quelques années ? On leur dit déjà, il est important, avant de créer de nouvelles règles, je suis d'accord avec vous, l'important c'est que toutes les règles déjà s'appliquent de la même manière à tout le monde. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on le sait, en matière de prix, je le disais, de sécurité des produits. Que font nos autorités de contrôle en France ? La première chose à faire, c'est que les règles soient les mêmes pour toutes et qu'elles soient appliquées avec la même force pour les acteurs implantés en France que les acteurs...
Et qu'ils ne se respectent pas aujourd'hui ?
Les prix, on sait qu'il y a des prix de référence qui ne veulent rien dire. Quand vous avez un prix barré, vous devez respecter une antériorité du prix. On sait que ce n'est pas le cas. Sur les informations délivrées au produit, sur la composition du produit, il y a aussi énormément d'erreurs. Sur la sécurité des produits, on sait que sur Chine, il y a beaucoup de jouets, par exemple, qui ne respectent pas les règles de sécurité du produit. Donc ça, d'abord, appliquons les mêmes règles à tous.
Oui. Alors, là-dessus, vous interrogez quand même des Français qui vous disent, c'est donc une enquête de Cluster 17 qui dit 84% des Français considèrent que la mode est trop chère en France, un chiffre qui monte à 75% chez les Français qui gagnent moins de 1000 euros par mois. La question, est-ce que si on interdit ces ultra fast fashion, du coup ça va devenir plus cher parce que quand même l'habillement en France est cher.
Non, alors je ne sais pas
si c'est une question de pouvoir d'achat, non ?
C'est cher, mais là où vous avez raison, oui, c'est une question de pouvoir d'achat.
Ouais, ça va coûter plus cher, quoi, si on les interdit de Chine, ça va coûter. Si on interdit Chine, ça va coûter plus cher.
C'est le risque. On a d'autres acteurs en France qui travaillent sur de la mode accessible. On a un champion français qui travaille sur de la mode accessible, Kiabi, qui sert toute la famille aujourd'hui à des prix qui sont accessibles avec des produits qu'ils essaient de qualité et améliorer de plus en plus. Donc non, il y aura d'autres acteurs pour servir cette entrée de gamme, y compris en France, qui crée de la valeur par des magasins et par de l'emploi et des produits de qualité.
Tiens, regardez, Yann Petiot, quand même, ce chiffre, toujours 63% des Français dont le revenu est inférieur à 1500 euros sont opposés à la création d'une pénalité sur les vêtements commercialisés par ces enseignes de fast fashion, d'ultra fast fashion.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, il y a un sondage qui va dans le même sens, qui a été présenté la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique, qui disait que c'était 51%, ce n'est pas totalement le même chiffre, mais qui disait que 51% étaient contre, en effet, des pénalités sur ces acteurs-là. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui dans cette proposition de loi, c'est qu'à l'origine, elle ciblait bien ces acteurs d'ultra fast fashion. Et la semaine dernière, en commission du développement durable, c'était un peu technique, je m'en excuse, mais les députés ont supprimé cette pénalité qui ciblait l'ultra fast fashion pour introduire une pénalité assise sur un affichage environnemental qui va impacter cette fois-ci toutes les enseignes, y compris françaises. Donc ne nous trompons pas de cible. Aujourd'hui, la proposition de loi telle qu'elle est écrite, elle rate sa cible. Elle n'arrivera pas à toucher les acteurs de l'ultra fast fashion. Par contre, elle va impacter les enseignes de l'entrée de gamme et peut-être du moyen de gamme qui sont implantées en France.
Donc la loi rate sa cible.
La loi rate sa cible.
Oui, et même elle est dans à terme, elle est quand même, elle peut mettre en péril l'activité du textile. On va y venir, qui, Dieu sait, se porte mal en France. Enfin, partout, mais en France notamment. Hein.
Ce serait un comble de ne pas arriver à réguler ces acteurs internationaux qui posent des vrais problèmes et d'impacter et de poser des difficultés à des enseignes en France qui fonctionnent et qui font tout aujourd'hui, qui sont engagées dans la transformation environnementale. Donc on dit attention à ce que nous faisons, oui pour agir, mais il faut le faire avec vigilance.
En fait, la force de ces ultra fast fashion, c'est que c'est leur digitalisation qui est formidable, donc ce qui plaît beaucoup aux jeunes.
Oui, on a aujourd'hui une grande partie de nos clients qui ont changé leur comportement d'achat,
mode consommation,
qui achètent sur Internet. Nous-mêmes, chez nos enseignes, c'est plus 80% de ventes en ligne par rapport à ce qu'on faisait avant la crise sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a un comportement de consommation. Les gens aujourd'hui se rendent moins en magasin. On a perdu un client sur 5 depuis la crise sanitaire dans les magasins. Donc il y a un vrai changement de consommation sur Internet avec des clients qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc qui sont très accessibles à la publicité digitale, au marketing digital. Et on sait que ces acteurs-là étrangers sont très puissants, dépensent des millions d'euros pour acquérir de nouveaux clients sur ces plateformes et sur les réseaux sociaux.
La loi, il y a deux points qui sont importants, justement, c'est sur la définition et la pénalité.
Oui. Oui,
c'est là où vous dites
la définition,
ça répond pas.
On est prêt à avancer. Faisons une définition qui nous permette de qualifier qui sont les acteurs de l'ultra.
Qu'est-ce qui vous paraîtrait entre les 7500 par jour et les 5000 par an, pour vous, quelle serait la bonne cible?
Il y a un monde, vous l'avez dit, entre mettre 7500 par jour et 5000 par an. Il y a tout. Et je vous assure qu'aujourd'hui, aucune des enseignes présentes en France, qu'elles soient françaises ou internationales, ne met 7500 références nouvelles par jour. C'est impossible.
Par exemple, H&M, c'est combien? Moi, je n'ai pas la moindre idée.
Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de communiquer ce chiffre. Ouais. Je leur laisserai le soin. En tout cas, on en est très loin.
Donc, pour vous, la cible, ce serait quoi?
Je vous dis, Raphaël Glucksmann, qui est député européen, a dit fixons-le à 1000 références par jour.
Mais est-ce que ça vous va?
Oui.
Vous, Yoann Petiot?
Oui,
moi,
Yoann Petiot, ça m'irait.
D'accord, ok. Ben voilà, ça y est, Okay.
Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la pénalité financière qui est prévue dans cette proposition de loi, elle ne vise pas les acteurs de l'ultra fast fashion. Elle repose sur un score environnemental dont la méthode est aujourd'hui excessivement critiquable et très complexe et impactera des enseignes.
Oui, mais je n'ai pas très bien compris comment définissez ce score.
On a eu une présentation la semaine dernière par les services du ministère. Il vous faudra bien une journée ou deux pour arriver à le comprendre. C'est aujourd'hui...
On est en France, quoi. Ouais.
Voilà, c'est excessivement complexe. On n'arrive déjà pas à contrôler les acteurs chinois sur ce qu'ils font aujourd'hui. Ne croyons pas demain qu'on arrivera à les contrôler, le score environnemental qu'ils afficheront.
Ouais.
Donc, ciblons bien les pénalités financières sur les acteurs de l'ultra fast fashion que l'on a envie de réguler. Et c'était l'esprit de cette loi. Et c'est ce qu'on a envie de poursuivre.
Puisque vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce, comment se porte le commerce? On a vu 2023, ça a été un raz-de-marée dans le mauvais sens du terme pour toutes les marques, les grandes marques qu'on connaissait. Ça, que ça soit dans le textile, dans l'ameublement, Habitat, là, c'est Maison du Monde qui ferme des magasins, mais pas tous, heureusement. Mais on a vu au Caïdi là tout récemment. Comment se présente 2024? Est-ce que c'est aussi dramatique en 2023 ou pas?
2023, on a véritablement un premier semestre et un deuxième semestre. Ouais. On a eu une cassure à partir du mois d'août avec véritablement une baisse de la consommation dans notre secteur de l'habillement, mais vous l'avez dit, y compris dans le meuble, dans l'équipement du foyer. Et malheureusement, ça a tendance à se poursuivre en début d'année. Fondamentalement, la situation macroéconomique n'a pas changé entre le mois de janvier et février et ce qu'on connaissait à la fin de l'année dernière. Au contraire, on a plutôt des perspectives économiques qui s'assombrissent un peu. Vous avez vu, la prévision de croissance a été diminuée par le gouvernement à
1%. Et l'INSEE encore tout à l'heure.
Le consensus est plutôt à 0,8. On voit que la courbe du chômage est elle aussi plutôt en train de se redresser. Donc oui, il y a des nuages, on va dire, macroéconomiques qui peuvent inquiéter. En même temps, il ne faut jamais oublier quand même que les enseignes qui résistent, qui sont là, se transforment et poursuivent leurs actions. Et je le disais tout à l'heure, on a des champions français et il faut qu'on en soit fiers. On parle de Kiabi, on peut parler d'Etam, on peut parler de plein d'autres acteurs.
Oui, mais voilà, il y a eu Camailleux, Coucol, Gap, Pinky, Jennifer, Minelli.
Et il y en a encore, malheureusement, on en aura certainement encore.
Il y en a encore, vous en connaissez.
Oui, parce qu'il y a plusieurs plans de continuation, il y a plusieurs entreprises qui sont aujourd'hui en procédure judiciaire, donc on ne sait pas comment ça va se finir. Donc oui, malheureusement, il y en aura encore.
Comment vous l'expliquez? Parce que ce n'est pas uniquement ces changements de mode de consommation, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la conjoncture qui est moins bonne, mais est-ce que ce sont des marques qui ne sont peut-être pas su se réinventer? Question de publicité, question de...
C'est sûr que toutes ces marques-là sont nées il y a 10, 20 ans et que monde a changé, voire même 30 ans pour certaines, et que le monde a changé depuis. Donc il a fallu ça. Un, faire le virage du numérique. Vous parliez de Zara. Aujourd'hui, ils font 25% de leur chiffre d'affaires en ligne. Donc, ils ont su prendre ce virage de la transformation numérique et capter une clientèle sur Internet extrêmement fort. Il faut aussi garder la spécificité de son produit. Peut-être que ces marques du moyenne gamme ont des produits aujourd'hui qui se différencient trop peu et donc il faut retrouver de la création et une appétence et pour que les clients reviennent aussi vers ces marques-là.
Oui. Donc vous avez est-ce que vous avez un chiffre à l'Alliance du commerce sur le nombre de commerces qui ont fait faillite?
Alors le nombre de commerces, non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'emplois, on voit que depuis 10 ans, le nombre d'emplois dans le commerce de l'habillement et de la chaussure, c'est moins 40 000 emplois dans ces commerces-là sur ces 10 dernières années.
Ah oui, sur un total de combien, juste pour avoir une idée à peu près de la proportion? Parce que moins 40 000, ça paraît beaucoup, mais ça dépend.
Oui, on était dans les 200.
Oui, donc c'est quand même vraiment énorme. C'est très, très significatif. Le Conseil national du commerce, on en a parlé bien sûr, c'était la semaine dernière, a fait des propositions avec Olivia Grégoire. Est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes? Alors, il y avait évidemment sur les baux, mais est-ce que c'est suffisant, à votre avis? Simplification et encore simplification. Est-ce qu'il aurait fallu d'autres choses encore?
Alors, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas tout ce qu'on attendait, mais c'est déjà un premier pas. Il était temps de réunir cette session plénière, que la ministre nous réunisse. Ça faisait un an que le Conseil national avait été créé. Il y a eu énormément de travail de fait depuis un an. Donc on attendait maintenant des choix politiques, des décisions politiques. Il faut rappeler que ce Conseil n'est pas né de nulle part. Il est né des assises du commerce qui, à la fin de la crise Covid, au cours duquel Bruno Le Maire a dit il faut que l'État définisse une vraie politique pour le commerce. Et donc il y a eu ce Conseil national qui a été créé il y a un an. On a travaillé. Et il y a des premières mesures qui sont sorties. Vous avez dit des mesures de simplification qui sont intégrées dans le texte déposé par Bruno Le Maire à l'été. Et il y a des mesures sur les baux. Qu'est-ce qu'a dit la ministre sur les baux commerciaux? Elle a dit qu'elle était favorable à aller vers la mensualisation des loyers.
Oui, mais qu'est-ce que
c'est
ça change?
Important. Important, je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui, toutes les enseignes...
C'est trimestriel.
Elles payent 3 mois de loyer en avance. C'est-à-dire, avant même que vous ayez fait 1 euro de chiffre d'affaires, il faut que vous donniez à votre bailleur 3 mois de loyer. Et ça pèse excessivement lourd.
Au début, quand vous ouvrez un commerce.
À chaque fois. Oui. Tous les 3 mois.
Non, mais je suis d'accord. Mais ensuite, c'est comme si vous faites... Vous engrangez vos 3 mois et vous voyez en quoi c'est fondamental.
Non, parce que vous les avez en janvier, vous avez déjà versé 3 mois. Il faut que vous attendiez le mois de mars pour les faire en chiffre d'affaires et vous reversez 3 mois d'avance.
Donc c'est toujours trois mois d'avance.
Ouais. Donc de payer par mois, c'est quand même un allègement pour la trésorerie des commerçants qui est extrêmement forte. Nous, ça suffit pas. On voulait aller au loin. Il y a des sujets aussi sur les charges immobilières qui ont fortement augmenté ces dernières années.
La question, j'allais vous poser, oui.
Et notamment dans un contexte de travaux qu'on doit faire dans les magasins pour économiser de l'énergie. On en a beaucoup parlé ces derniers mois.
Qui paye dans ces cas-là?
C'est une des questions que l'on doit travailler avec les bailleurs, parce qu'aujourd'hui, la loi sur certaines choses n'est pas forcément claire.
Oui, mais aujourd'hui, tel que c'est plutôt les bailleurs, c'est plutôt les commerçants.
En principe, ce qui relève au bailleur, relève du bailleur, ce qui est, on va dire, le clos du bâtiment, et ce qui est à l'intérieur du magasin relève plutôt du commerçant. Mais on sait que quand vous êtes dans un centre commercial, le bailleur, pour les dépenses qu'il fait, il a la capacité de les refacturer à son commerçant. Et donc, même si c'est le bailleur qui est le premier payeur, il refacture ensuite à son commerçant. Donc, in fine, c'est le commerçant qui va payer 2 fois.
Est-ce que ça a entraîné une hausse très forte qui était déjà trop importante? On l'a bien vu après le Covid, enfin pendant le Covid et après le Covid. Est-ce que ça a entraîné une hausse des baux d'une manière spectaculaire, rénovation énergétique?
Alors, il y a déjà le loyer qui a fortement augmenté sous l'inflation, qui a fait plus 12% automatiquement sans même rien faire. C'est-à-dire que même si votre magasin perdait de l'argent...
12%
sans rien faire en indexation automatique sur ces dernières années. Et les charges immobilières, elles sont constantes. Elles vont être en augmentation constante ces dernières années. Je vous rappelle qu'on a un objectif d'ici à 2030 d'économiser 40% d'énergie dans nos magasins.
Ouais.
Et donc ça nécessite des travaux. Et les travaux, c'est de l'argent.
Ouais. Juste, on a 30 secondes, donc c'est une réponse ça sera forcément incomplète. Les grands magasins, on a vu le problème des Galeries Lafayette de Michel Ohayon en province, mais même les grands magasins aujourd'hui à Paris, est-ce que ça a toujours la même cote?
Oui, bien sûr. Et au contraire, ils ont retrouvé une certaine cote avec le retour du tourisme international qu'on avait malheureusement perdu durant les années Covid. Donc oui, ils ont profité du Covid pour se transformer. Ils ont fait beaucoup de travaux dans les magasins. Et bien sûr, à la fois, ils ont gagné en clientèle locale et la clientèle internationale est de retour. Et c'est une très bonne chose.
Merci beaucoup, Yann Petiot, donc le directeur général de l'Alliance du commerce. Ultra fast fashion, OK. Mais la loi, pour l'instant, ça rate sa cible. Important. Merci beaucoup. Tout de suite, Thomas Asportas.
18h30 sur BFM Business. La reprise se fait attendre. C'est ce que nous dit en substance l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture qui ramène à 0,0% sa prévision de croissance pour le premier trimestre contre 0,2% auparavant. Les premières données disponibles pour janvier 2024 sont mal orientées, nous dit l'INSEE, qui dit s'attendre en revanche à un peu plus de croissance que prévu au second semestre. au second trimestre, pardon, à 0,3% au lieu de 0,2%. L'Assemblée, on vient d'en parler, a adopté à l'unanimité en fin d'après-midi la loi Ultra Fast Fashion qui cible les sites chinois comme Shein et Temu, avec notamment l'interdiction pour ces sites de faire de la publicité et un malus environnemental pouvant aller jusqu'à 10 euros par produit. La France accuse ces entreprises de dégâts sur l'environnement et de concurrence déloyale avec les autres commerçants. Et puis aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État au Trésor sous Donald Trump, Steven Mnuchin, veut racheter TikTok. 24 heures après le vote de la Chambre des représentants qui accentue la pression sur le réseau social chinois. C'est une belle société, je vais assembler un groupe de personnes pour acheter TikTok, a déclaré aujourd'hui Steven Mnuchin, qui a monté sa société de capital investissement quand il a coûté le gouvernement américain de Donald Trump. 18h32, on marque une pause sur BFM Business et on se retrouve dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35, bienvenue dans les experts sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre, bonsoir.
Bonsoir.
On parle fast fashion, Thomas, évidemment, nous sommes restés avec Edwige Chevrillon. Donc ce projet de loi, il vient d'être adopté largement à l'Assemblée contre ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Vous venez d'en parler avec votre invité Edwige. Donc c'est la mode éphémère à tout petit prix. Donc ce sont notamment les sites chinois que sont Chine et Temu, et la majorité veut sévir contre ces entreprises qui font à la fois du mal à l'écologie et puis aussi au commerce traditionnel local. Donc deux mesures phares, un malus qui peut aller jusqu'à
10 euros.
Et l'interdiction pour ces sites de faire de la publicité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos politiques sont dans leur rôle ou est-ce qu'il faut laisser faire la concurrence?
Ben, si on écoute ce que dit en tous les cas l'Alliance du commerce, hein, qui regroupe donc beaucoup de commerçants, la réponse est oui, mais sur l'ultra fast fashion, faut
alors on précise, pas envoyer le mot ultra. Voilà.
Oui, enfin, qu'est-ce que c'est pas du tout évident, parce que justement, j'ai essayé d'avoir une définition de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. Si vous voulez, d'un côté, vous avez 7500 produits par jour, là c'est Shein, vous dites. Et puis de l'autre côté, vous avez 1000, ce que dit la loi, c'est 1000 produits par jour.
Donc, il y a quand même un grand écart énorme.
C'est deux mondes totalement qui est différent. Donc, c'est là où il faut trouver la bonne définition, et c'est ce qu'espérait l'Alliance du commerce et Yohann Petiot en disant là, en plus, ils sont contre la manière dont est organisée cette taxe dans le cadre de cette loi, et qu'ils espèrent, là, pour l'instant, ils ont perdu, comme ils disent, la loi a raté sa cible.
Oui.
Donc, ils espèrent qu'au niveau du Sénat, ils vont peut-être l'emporter. Mmh. Et pour l'instant, voilà, les commerçants jugent que ça rate
sa cible. Le compte n'y est pas. Ouais.
Non, mais parce qu'en plus, quand même, juste au-delà de faire du mal à l'environnement, donc on comprend que ces entreprises qui produisent 5 à 7 000 produits par jour échappent aux droits de douane français qui sont mis en place, enfin, on a un seuil à partir de 150 euros.
Oui.
Donc en plus de ça, c'est vrai que c'est une concurrence complètement déloyale par rapport au
textile. Là, quand même, l'industrie du textile, c'est vraiment une industrie qui pollue énormément. Donc il y a un gros problème. On se souvient qu'il y avait un engagement qui avait été pris à Biarritz, notamment par François-Henri Pinault au moment du G7 avec François-Henri Pinault, le patron de Kering. Enfin, depuis, on n'entend pas tellement parler. Et puis que ça continue, ça produit de plus en plus.
C'est 10% des émissions de CO2 et 20% de la pollution des eaux.
C'est dingue. C'est incroyable.
Mais donc, ils ont trouvé quand même un modèle économique ultra rentable parce qu'ils n'ont pas d'enseigne. Tout se fait sur Internet, et en plus de ça, pas de droits de douane. Emmanuel.
Oui, et pas tant de pollution que ça, finalement, quand vous comparez avec les distributeurs classiques. C'est pour ça que on est vraiment au cœur du triangle d'incompatibilité qu'on a souvent évoqué entre justice sociale, démocratie, enfin liberté et écologie. C'est-à-dire que là, moi, je veux bien que effectivement on augmente les prix de tout ça, mais vous ne pouvez pas nier que c'est prendre du pouvoir d'achat quand même aux Français. Et ça c'est quand même quelque chose qui est relativement incontestable. Après, moi, je trouve que c'est totalement ringard comme proposition, c'est que ça cible finalement des vendeurs de textiles qui sont aujourd'hui à la pointe d'une forme d'innovation dans cette industrie et qui apporte quelque chose exactement comme les compagnies low cost ont apporté quelque chose au transport aérien. C'est-à-dire que quand vous voyez ce modèle qui est 100% digital, qui est basé sur l'utilisation prédictive des données.
Oui, mais c'est pas là le problème, c'est pas ça qu'on condamne.
Oui, c'est ça.
C'est pas ça
qu'on condamne. C'est la phase amont.
C'est les 7500 par jour.
Alors j'y arrive,
Edwige.
Pardon. Parce que quand vous voyez que le nombre d'invendus dans ce genre d'entreprise, c'est moins de 10%, quand c'est 40%, 10% dans l'industrie traditionnelle de la mode et que le vrai sujet, c'est pas tellement finalement le fait d'aller sur des trucs très rapides, c'est les invendus, que vous allez me dire que c'est de la qualité médiocre. La réalité, c'est qu'en fait, quand vous regardez le bilan environnemental du textile chimique, entre guillemets, il est bien meilleur que celui des fibres naturelles. Je vous renvoie au bouquin qui est sorti récemment, je voulais l'amener, qui évalue produit par produit le bilan carbone de chaque produit et qui montre qu'il y a des tas de produits.
Le bilan carbone et qualité, c'est pas pareil. Non, mais qualité, ça veut dire qu'il va falloir le racheter tous les deux jours.
Ce que je veux dire, mais c'est même pas vrai. Mais c'est même pas vrai.
C'est ça, c'est les clientes qui le disent. Mais c'est pas moi, mais les clientes vous le disent.
C'est à peine vrai. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, bon, moi, je suis pas là pour les vendre. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on est quand même sur une vision de ce modèle économique où faut pas beaucoup pousser les députés pour dire que c'est des enfants et qu'ils fabriquent ces vêtements, etc. Moi, je pense que c'est une vision ringarde, qui est une vision qui pénalise les consommateurs français et qui ne changera rien au destin des commerçants français. Parce que si vous croyez que les gens qui achètent sur Chine, c'était des gens qui avant allaient dans les boutiques traditionnelles, etc., vous vous trompez complètement. Donc c'est franchement, c'est
ouais, sujet. Alors, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce que vous occultez complètement, c'est que ces vêtements, ils sont portés 7 à 8 fois avant d'être jetés, que en 2022, de 2022 à 2023, en un an, hein, on est passé de 41 vêtements achetés par Français à 48. Tous ces vêtements, où est-ce qu'ils terminent, Emmanuel ? Il y a 15 millions de vêtements tous les mois qui viennent d'Europe et qui échouent sur les plages des pays africains. Et cette surconsommation, en fait, on peut pas continuer à faire de l'Afrique la poubelle de la surconsommation européenne. Et cette loi, elle s'adresse aussi à ça.
Mais non, mais faites du recyclage, il y a des tas de choses.
Oui, on peut mettre des choses en place à ce moment-là.
S'il y a un secteur, par exemple, où on se dit qu'il y a un avenir potentiel sur tous les sujets, c'est justement cette économie du recyclage et pour aller vers un truc un peu plus circulaire. Donc moi, je veux bien encore une fois qu'on taxe sans se préoccuper et qu'on raisonne sur les façons de produire d'avant et les façons de consommer d'avant. Moi, je dis que si la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de mettre une taxe pour empêcher les gens et qui sont quand même souvent les plus modestes de s'habiller, voilà. Mais honnêtement, ça résoudra aucun des problèmes auxquels on est confronté, ni un problème environnemental, ni un problème économique.
Je suis un petit peu d'accord avec Emmanuel, je dois reconnaître, même si sur le fond, je pense qu'il faut faire quelque chose.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas aller dans cette surconsommation, ce côté où on achète un vêtement et puis effectivement, on le jette rapidement. Jetable. Il faut trouver, c'est pas un produit jetable. Mais, et donc, il faut trouver derrière des manières de le recycler. Ça ne doit pas être très, très compliqué, je veux dire, de trouver un système pour ça. Mais le problème de fond, c'est que cette industrie textile, elle est extrêmement polluante.
Et quand vous payez 300 ou 400 euros des pièces soi-disant de mode fabriquées soi-disant par des créateurs français dans des endroits moches où au bout de 2 mois ou 3 mois vous avez plus rien. Je veux dire, là aussi il faut que les enseignes prétendent respectables de la mode balayent aussi devant leur
porte. On est d'accord maintenant quand vous dites que cette concurrence qui quand même est un peu déloyale parce qu'encore une fois ils passent à travers les droits de douane et que leur méthode et leur mode de production ne respectent aucune de nos normes, quand vous dites que ça n'a aucune incidence sur l'économie locale, c'est pas vrai. Enfin, on a bien vu le coup de grâce que ça a été à la fois pour Pinky, pour Camailleux.
Mais est-ce que vous croyez sincèrement que l'avenir de l'industrie française, c'est de réinstaller du textile à bas coût en France ? Non, bien sûr que non.
Et pourquoi pas ? Je sais pas.
Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non.
Non, et puis les marques comme Pinky et d'autres, c'est sûr que ça a été une véritable hécatombe en 2023.
Hécatombe
totale. On en parlait avec Yann Petiot. Cela dit, c'est peut-être aussi des marques qui se sont pas réinventer.
Elles ne se sont pas adaptées, ça c'est sûr.
Réinventer, parce qu'il faut se digitaliser, il faut
se moderniser.
C'était des coups de grâce, situation difficile.
Bon, en tout cas, on essaie de mettre un tour de vis.
C'est pas fini, en tous les cas.
C'est pas fini, voilà. Maintenant, le texte arrive au Sénat et les politiques veulent serrer la vis contre ces plateformes. Ça, c'est pour la France. En Europe, la Commission européenne veut...
Je termine juste quand même.
Allez-y, Emmanuel.
Parce que, encore une fois, comme d'habitude, par rapport à ce genre de texte, on n'a aucun début de chiffrage d'impact, etc. C'est-à-dire que toutes ces mesures qui ont été annoncées, on ne sait absolument pas quel impact ça va avoir, combien ça... Enfin, rien, quoi. Voilà, on décide, on met telle somme, et rien. On lance ça comme ça. Franchement, c'est de l'amateurisme complet, quoi.
Bon, attends, c'est ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai écouté encore Christophe Béchu hier, qui justement a donné une ribambelle de chiffres, et il me semblait que pour une fois, l'impact était plutôt mesuré.
On n'a pas l'impact réel de tous ces acteurs qu'on a ciblés. On est incapable de le calculer. Le bénéfice environnemental attendu de tout ça, si vous avez vu des estimations, moi je veux bien, mais moi j'en
ai pas vu. Je cherche un chiffre national.
Donc voilà. Pas. Donc encore une fois, bon, pourquoi pas, mais franchement, c'est à côté de la plaque.
Non, mais enfin, donc on sait que l'industrie textile, c'est un tiers de la pollution sur la pollution plastique, que c'est un tiers de la pollution du fret aérien. Oui, de l'ensemble de l'industrie textile. Oui, absolument, mais c'était pour donner quelques métriques.
Ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de se focaliser aujourd'hui et de cibler des acteurs de la mode qui sont paradoxalement des acteurs qui n'ont pas les comportements les moins vertueux. Voilà, par rapport à tout un tas d'autres industriels.
Et qu'en plus, avec la taxe, ça va c'était à cibler tout le monde. En tous les cas, c'était ce que disait l'Alliance du commerce.
Oui, bon, en tout cas, à suivre.
À suivre,
on effectivement. On n'a pas fini de débattre sur le sujet.
Autour de ça, on n'a pas fini non plus à Bruxelles de taper, enfin en tout cas d'essayer de taper sur les géants de la tech. Frédéric Simotet nous a rejoint en plateau. Bonsoir Frédéric. Puisqu'à midi, et Emmanuel a déjà sa petite opinion là-dessus visiblement, à midi, effectivement, ça a attiré sur tout le monde. Ça a commencé avec AliExpress. On reste dans la thématique Chine, là cette fois-ci, pour vente de produits frauduleux et dangereux, notamment les médicaments. Ensuite, ça a été autour de LinkedIn pour utilisation de nos données personnelles à des fins commercial, publicitaire, l'orientation politique, l'orientation sexuelle de tous les gens inscrits sur LinkedIn. Et enfin, un coup de semonce général sur toutes les plateformes autour des deepfakes et de l'IA et des fausses informations. Est-ce que, et ça, donc tout ça au lendemain des États-Unis qui ont tapé sur TikTok, est-ce qu'il faut se réjouir que l'Europe, quelque part, montre les dents face à tous les grands noms internationaux de la tech?
C'est les débuts des effets de toutes les réglementations qui sont mises en place. Il y a eu des mâles, là c'est le DSA qui entre typiquement en ligne de compte. Donc oui, il est temps de réguler. Alors la régulation, pour les réseaux sociaux, ça devrait aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'importance qu'a pris TikTok dans la société auprès des plus jeunes et tout ça, il y a vraiment un problème d'usage maintenant. Oui, si LinkedIn, faut quand même savoir, c'est le. Alors, ça appartient à Microsoft. Ouais. N'oublions pas, c'est a été racheté 26 milliards il y a quelques années Microsoft. Ouais. C'est quand même le plus gros. Aujourd'hui, on ne donne plus sa carte de visite. On dit contacte-moi sur LinkedIn et vice-versa. Donc ça devient l'échange des cartes. Donc toutes les infos sont là, et non seulement toutes les infos de notre vie professionnelle sont là. On a tout le parcours, on a le CV, on a même des recommandations.
Oui, c'est devenu incontournable.
C'est devenu incontournable, et aujourd'hui il y a tout un tas d'informations. Alors théoriquement, LinkedIn est censé nous garantir. En plus, on accepte, on n'accepte pas les personnes, on rentre dans des cercles plus ou moins privés, donc, et c'est nous qui décidons. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que...
On ne décide pas beaucoup.
C'est pas totalement nous. On pensait LinkedIn un peu... Au moins pour LinkedIn.
Ouais, c'est vrai, un peu sérieux, quoi.
On pensait un peu préservé.
Enfin, pardon, mais on s'en rend compte un peu tard.
Et puis, en plus, LinkedIn, on se dit, à la limite, mes données sont utilisées pour pousser des offres d'emploi, parce que c'est ce qui était fait, pour me pousser, dire, tiens, il y a des postes là qui peuvent vous intéresser. Ça va. Quand on commence à comprendre que LinkedIn, c'est aussi pour vous dire... Il y a telle marque qui fait de la pub, il y a telle promotion immobilière si vous voulez acheter un appartement, si vous voulez. Enfin voilà, là on commence à rentrer dans un site un peu plus classique, et là oui, il est normal que la Commission européenne commence à sonner à tirer la sonnette d'alarme, mais surtout le problème pour les consommateurs, encore une fois, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternative. On est coincé.
Sur les consommateurs, en effet, on est un peu coincé. En revanche, est-ce que les choses vont changer, d'après vous, sur la justice? Parce qu'on voit qu'on a deux temporalités qui sont complètement différentes. Un secteur qui évolue à la vitesse de la lumière, et des actions en justice qui sont d'une lenteur abominable. Il y a des actions en justice engagées contre Google qui ont commencé il y a 10 ans et qui ne sont pas terminées.
Je pense qu'avec DSA, DMA, on va commencer à bouger un peu plus vite, à frapper plus fort aussi. Là, Apple, les 1,8 milliard, même si ils paieront jamais la totalité de la somme, où ça va repousser quand même. 1,8 milliard qui tombe là, ça commence un peu à faire, c'est quand même des sommes pour ces entreprises là c'est toujours ce que je dis, les gens me disent oui, mais ils sont riches à millions, mais c'est comme nous, on a avec tous les revenus que l'on peut avoir, même si on a 10 € d'amende, ça nous ennuie de payer
10 euros.
Oui, minimum. 35 euros d'amende.
Non, mais Fred, il fait des mini-amendes.
Ouais. Non, mais comme une mini-amende, si on a 35 € d'amende, même si on a de quoi, ça va pas transformer notre vie, de payer 35 €, ça nous ennuie quand même de payer. C'est la même chose.
Mais est-ce que c'est la fin de la concurrence déloyale?
Non. C'est le problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à LinkedIn...
Pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faudrait qu'il y ait concurrence.
Voilà. Et là, aujourd'hui, et c'est ça que je...
Il y avait Viadeo.
Non, mais c'est ça que je regrette aujourd'hui autour du DMA DSA. On n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Moi, le DMA DSA, c'est très bien. Mais si à côté, on aide à financer un réseau... alors, on avait Viadeo à l'époque, pour les plus anciens, qui était un peu concurrent de LinkedIn. On va pas le relancer. Mais voilà, si à côté, on avait une alternative qu'on poussait... peu à peu, on le voit dans l'intelligence artificielle, on voit un Mistral qui est en train de monter en puissance. Là on commence à avoir une alternative, alors souveraine ou pas, bon, le savoir-faire est souverain, c'est ce qu'on va se dire, mais aujourd'hui c'est ça le souci, c'est tant qu'on met pas en place des mesures pour aider d'autres acteurs.
Oui, mais justement, parce que Manu on n'a pas de concurrence, parce que les GAFAM ont complètement étouffé la concurrence,
parce qu'ils sont bons
et ils ont étouffé aussi l'innovation.
Ils écrasent le marché.
Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on a l'impression que avoir un acteur français qui nous proposerait des services concurrents, ça résoudrait le problème.
Bah non.
Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'avoir un acteur français, il serait forcément...
On a eu un Google français, ça y est, c'était mort.
Il serait forcément plus vertueux. Donc je pense qu'effectivement, le vrai sujet, c'est de faire respecter
la loi
et appliquer les lois pour le coup. Alors après, dans tout ce qu'on a évoqué, tout n'est pas à mettre sur le même plan.
Bien sûr. AliExpress, c'est vraiment du faux.
Moi, je me concentrais
surtout sur LinkedIn, parce que LinkedIn, il y a vraiment... Là, à partir du moment où LinkedIn, on sait que nos données sont utiles. Mais tant que nos données sont utilisées dans un peu l'ADN de LinkedIn, qui était l'emploi, qui était trouver des jobs, qui est le suivi de carrière et tout ça, pourquoi pas?
Non, mais Frédéric, on aurait un LinkedIn français. En quoi on peut partir du principe qui serait plus vertueux, qui ne s'intéresserait pas à tout ça. Voilà, ça reste le contrôle, ça reste la clé, quelle que soit la nationalité, finalement.
Non, mais d'accord, mais c'est aussi un sujet de souveraineté sur l'accès aux données personnelles.
Oui, mais ça que... Oui.
Non, mais est-ce qu'on a envie qu'il n'y ait que des acteurs américains qui possèdent l'ensemble des données européennes?
Autrement, est-ce que vous êtes prête à céder vos données à un acteur français, mais pas à un acteur américain? Est-ce que ça vous fait quelque chose de savoir, en fonction de la nationalité?
Non, mais ça me fait quelque chose d'avoir le choix. Non. Et je pense qu'avoir le choix, c'est important.
Oui, mais si vous avez le choix,
même si le résultat est même,
utilise vos données. Si le choix, c'est que celui qui utilise vos données, il est français ou américain.
Moi, ce qui me gêne dans tout ça, au-delà de sortir un peu du canal de nage de LinkedIn, qui était le truc d'emploi, d'aller partir sur la pub, ça me gêne un peu. Il y a autre chose qui me gêne, mais là, c'est ça. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, vous êtes sur Google, le moteur de recherche. Vous cherchez une adresse, voilà, de rue du Général Alain Boissieu pour notre siège. Il vous affiche le Google Maps. On clique sur Google Maps.
Plus maintenant, avec le DMA, justement.
Et justement, là, sous prétexte de protéger le consommateur, donc de plus avoir accès à Google Maps, on dit, on ennuie l'utilisateur. Ouais. C'est-à-dire, on est en train de faire des
pas derrière. Ouais.
Et ça, il faut faire attention à ça aussi, à cet effet inverse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui ne sont pas aguerris sur le numérique et qui avaient l'habitude de faire ça, ils rentraient l'adresse, le map, et je me dirigeais.
Bon, tout le monde connaît notre adresse.
Hein. C'est aussi Frédéric.
Je vais où ensuite? Sur quelle application?
Et c'est aussi tout le débat sur le degré de concurrence et la praticité d'avoir des normes, finalement, et des outils qui sont utilisés par tout le monde dans le monde entier.
Ouais.
Il faut reconnaître que c'est pratique d'avoir des outils qui sont utilisés partout dans le monde entier. Et ben, par contre, ça pose des problèmes de concurrence. C'était au cœur de la défense de Microsoft face à la Commission européenne, notamment dans les années 90, quand on accusait Microsoft de monopole, mais qui disait, attendez, nous, on a imposé une norme mondiale qui, finalement, crée des effets d'échelle qui profite à tout le monde. Et c'est toujours un peu ce débat-là.
Est-ce que, juste pour finir là-dessus, il n'y a pas aussi quand même un peu beaucoup de politique et de géopolitique derrière tout ça? C'est-à-dire qu'on a les élections européennes en juin, les élections américaines en novembre, c'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui la Commission européenne bombe le torse et si hier le Congrès américain, la Chambre,
en tout cas, s'attaque à... C'est peut-être Thierry Breton qui bombe le torse.
Voilà, il ne faut peut-être pas occulter cet aspect-là des choses.
C'est une bataille pour la Commission européenne.
Oui, bien sûr.
Non, mais l'aspect politique, géopolitique et puis de souveraineté, évidemment, est au cœur du sujet.
Je pense que
que DMA et DSA, sur lequel il a beaucoup travaillé, et ça c'était une avancée, ça sert à quelque chose. Donc là, on a les premiers résultats.
On a l'IA Act, si je le dis en français, on a pas mal de choses que l'Europe. Et qu'on ne dise pas non plus, moi j'aime pas trop qu'on dise souvent l'Europe régule, les autres innovent. Aux États-Unis, ça régule quand même beaucoup, seulement c'est par État.
C'est qu'en Europe,
on n'était pas au courant.
C'est qu'en Europe, ça n'innove pas beaucoup.
C'est ça. C'est censé innover plus maintenant, grâce à ça.
Regardez Mistral, vous dites que ça n'innove pas beaucoup. Il y a des exceptions. dernier Mistral.
Et, juste pour terminer, parce qu'aux États-Unis, ça régule beaucoup, mais par État. Donc on le voit, ouais. on le voit un peu moins. Mais aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui, c'est là, on a, pour moi, on a un univers là, avec l'intelligence artificielle où là, on voit que pour la première fois depuis longtemps,
ça peut rebattre les cartes.
On peut peut-être se glisser parce que le cloud, c'est fini.
Voilà, cocorico quand même.
Tout ça, c'est fini. Et là, on a peut-être.
Et en même temps, là où il faut pas avoir peur, parce que Frédéric a raison, ça, ces groupes-là, évidemment, si on leur dit vous allez payer des amendes ou pas en payer, ils préfèrent ne pas en payer. Mais il faut pas avoir peur non plus. Si on leur impose de payer des amendes, ils les paieront. Et c'est pas ça qui fait qu'ils partiront.
Sauf si les amendes deviennent de plus en plus importantes.
Ils les payent pas.
Ils ont pas les moyens.
Ils trouvent toujours un moment de un moyen de négocier.
Et puis l'Europe, c'est trop important pour eux aussi.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, il ne faut pas occulter quand même que tout ça va dans le sens des consommateurs. Rappelez-vous les pratiques à l'époque qui faisaient que les résiliations d'abonnement aux différentes applications étaient quasiment impossibles.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est possible, et notamment grâce à ça.
Il y a des effets bénéfiques. Attention, je prenais juste l'exemple tout bête du Google Maps. Attention à ces effets-là aussi qui rendent la praticité. Au début, lorsque Emmanuel le disait dans les années 80, quand on a demandé à Microsoft qui vendait tous ses logiciels et son navigateur Internet, c'était la porte d'entrée sur Internet, c'était le navigateur Microsoft. On lui a demandé de le détacher. Ça n'a pas été évident pour les autres acteurs de dire oui, mais maintenant je fais quoi pour aller sur Internet? Ah, il y a 4 navigateurs. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, oui, bon, très bien, ils vont aller sur Safari, sur un autre. Mais pour les autres, oui, mais je. Je vais où?
Ouais. Bon, voilà, en tout cas, on a un arsenal législatif européen, on peut dire enfin.
Non, et puis, et aujourd'hui, on sent qu'on a une certaine force à ce niveau-là. Alors, certainement, comme le disait Thomas, il y a un effet géopolitique. On a un Thierry Breton qui montre que lui s'est résisté.
Pas lui.
Il parle d'ailleurs. Il parle en direct à Elon Musk, il parle en direct à Sam Altman, il parle en direct. Et je termine juste un point, c'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Américains, les Sam Altman, alors peut-être moins Elon Musk, mais à Sam Altman, ils ont des visions géopolitiques, politiques aussi, très en avance.
Ils voient les choses aussi.
En plus de l'innovation. Et nous, c'est ce qui nous manque. Nous, on a peut-être des Emmanuel Macron qui ont des visions sur le monde.
Mais au niveau
de la vision, ce que la technologie peut changer, tout ça. Là, je pense que ça
ne mettons pas.
Avec Mistral, justement, ça arrive.
Ne mettons pas sur le même plan. Les réglementations qui supervisent les droits des consommateurs et qui défendent les droits des consommateurs et les réglementations qui empêchent d'innover.
Oui, oui.
Souvent, c'est un peu la même chose.
Alors,
disons que c'est lié.
C'est
compliqué.
Merci à tous les trois, Frédéric Simotel. On s'est fait un petit before de Tech & Co là, grâce à vous. Merci. On poursuit tout ça évidemment à partir de 20h dans Tech & Co avec vous et François Sorel.
Oui, et on reçoit Philippe Aguillon et
Anne
Bouvron sur le rapport interministériel sur l'IA générative. Ils seront là tous les deux. Donc
rendez-vous à 20h.
Rendez-vous à 20h.
Mais en attendant, on est toujours dans Good Evening jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h, Thomas, évidemment. À tout de suite.
Merci.